Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ça pourrait quasiment être le teaser d'une nouvelle série Netflix ou d'un grand jeu vidéo ou peu importe. Il y a quelque chose de sombre et une lumière qui vient, une intrigue. Ça peut faire rêver, ça déclenche l'imagination. Mais c'est une prophétie de la Bible. Donc ce n'est pas une histoire ou une fable, c'est une réalité qui est une bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui. Et ça, frères et sœurs, c'est un peu ce que je voudrais méditer avec vous. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, en 2025, nous pouvons entendre cette prophétie-là? Est-ce que c'était simplement l'annonce du Christ? Bon, voilà, tant mieux pour ceux qui étaient présents là à cette époque. Ou est-ce que nous, comme chrétiens en 2025, comment cette parole vient résonner dans nos cœurs? Et comment faisons-nous partie de cette histoire que Dieu écrit? Je vais donner tout petit peu de contexte pour commencer, parce que c'est parfois un peu complexe quand on entend cet enchaînement de régions, de géographies, de peuples, quand on n'est pas familier forcément de tous les zones d'Israël, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, etc. De quoi est-ce qu'on parle? Déjà, qui parle? Qui fait cette prophétie? Cette prophétie, bien sûr, c'est une prophétie qui vient de Dieu, portée par un prophète, Isaïe. Et au moment où Isaïe fait cette prophétie, il est dans le royaume du sud et il parle du royaume du nord parce que le peuple de Dieu s'est déjà coupé en deux royaumes. Il y a des rivalités, il y a des tensions, c'est compliqué, de la jalousie, parfois un peu de guerre, exactement, des trahisons, si on regarde le détail. Donc tout n'est pas calme au milieu du peuple de Dieu. Et voilà que le royaume du nord a déjà été envahi et donc il est détruit. On pourrait dire que le royaume du sud se réjouit, il dit ben voilà, c'est bien fait, ils ont fait n'importe quoi, parce que le royaume du nord était quand même un peu suspecté d'hérésie régulièrement, très régulièrement. Voilà, il y avait pas mal de cultes de différentes idoles qui ont eu du mal à être éradiquées, et le royaume du sud, c'est le vrai, c'est là où il y a Jérusalem. Donc c'est la descendance du roi David, c'est le plus légitime, on est au bon endroit. Voilà, ça c'est un peu le contexte. Et pourtant cette prophétie est donnée donc par un prophète du sud, mais concernant les pays du nord. Manière de dire, dans ces pays du nord qui ont été humiliés et dans lesquels tout n'est pas très droit, eh bien une grande lumière va se lever chez vous. C'est assez beau de voir ça. Et cette parole de Dieu qui est adressée dans un peuple encore à peu près croyant à propos de ceux, on va dire, plus bancal. Et ça va s'accentuer au cours des siècles, puisque cette région du nord, suite à l'occupation, alors le sud va finir par tomber aussi, mais le nord, il y aura beaucoup de déportations et du coup d'autres cultures qui vont venir, parce qu'il faut remplacer les populations. Donc on passe d'une foi juive, déjà parfois pas tout à fait droite, à quasiment une religion polythéiste, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de melting pot qui se fait, il y a de l'immigration dans tous les sens, qui chacun arrive avec sa culture, avec ses idoles, avec ses croyances, avec ses superstitions. Donc autant dire qu'à l'époque de Jésus, donc maintenant on passe à l'accomplissement de cette prophétie, quand on regarde le royaume du Nord, c'est avec un peu de dédain, au minimum. D'où cette petite phrase qu'on finit par dire de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Les regards ne sont pas tournés vers le nord, la Samarie, la Galilée des nations, c'est vraiment le lieu du brassage culturel, ethnique, qui n'est pas très bien vu par les croyants pure souche, un peu solides. Ils disent non, ceux-là, ils ont perdu la foi globalement. Il y a des petites traces, mais ce n'est plus des vrais croyants. Ce ne sont plus des vrais croyants. Il y a cette attente messianique du Sauveur qui est très forte en Israël, mais les regards globalement sont tournés vers Jérusalem. On attend que le Sauveur se manifeste là. Et là, c'est le début de la vie publique de Jésus. Et que fait-il? Délibérément, il se retire en Galilée. Il vient habiter Capharnaüm. Capharnaüm, c'est devenu un mot de la langue française. Alors, les plus jeunes générations, j'imagine que vous ne l'utilisez pas tous les jours, ce mot-là. C'est vos parents, en général, rentrant dans votre chambre, qui parlent de ça. Ça vous donne un petit peu un contexte. Capharnaüm, c'est la ville du grand bazar, quoi. C'est, c'est, C'est le chaos, ça se mélange, ça parle, ça crie. C'est pas là où on attend quelque chose de très beau. Et c'est précisément là que le Christ va commencer son ministère. Et donc l'évangéliste Matthieu, derrière, la relie à cette prophétie. Voilà. Voilà ce peuple qui était un peu méprisé, ceux qui sont mal croyants. Voilà que Dieu apporte le salut ici même. Alors pour nous, frères et sœurs, pour nous comme chrétiens, en fait, ça doit nous poser deux questions. La première, c'est la manière dont nous regardons nous-mêmes le monde aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on regarde le monde assez facilement, on pourra dire, et à juste titre, qu'il y a une forme de paganisme qui s'est répandue. La foi chrétienne était là, et puis ben, avec toutes les histoires, etc., et tout ça, beaucoup de foi ont été perdues, de religiosité. Ça s'est mélangé à tout un tas de courants. On a des gens qui sont plus croyants, ou peu croyants, ou mal croyants. Et c'est vrai. C'est vrai. Probablement pas très loin de chez nous. Quand je dis nous, c'est nos familles. C'est pas tellement géographique, d'ailleurs. C'est plus en fonction des personnes. On fait quelques mètres et on se rend compte, on dit, mais c'est pas possible, lui, il se dit chrétien, et en même temps, il fait ça par derrière, il va faire du... Il va faire son reiki, il va faire appel à un chiromancien, à ce qu'on veut, etc. Et donc, du coup, on s'éloigne d'eux. Mais nous, frères et sœurs, est-ce que nous entendons cette même prophétie pour nous, pour notre monde d'aujourd'hui? Parce que c'est le cas. Ce pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, effectivement, il n'est pas si beau que ça, il n'est pas que beau. Il y a aussi de la beauté dedans, il ne faut pas le rayer d'un trait. C'est un pays que Dieu aime et que Dieu vient sauver. Et c'est peut-être le premier lieu de la manifestation du salut de Dieu. Et ça, frères et sœurs, pour nous en rendre compte, en particulier, on a presque l'impression qu'aujourd'hui on rabâche ça, mais regardons les catéchumènes. Tous ces catéchumènes qui demandent le baptême, d'où viennent-ils? Pas précisément de ces endroits-là, où on n'était pas croyant, peu croyant, mal croyant, peu importe. Et ils ont fait l'expérience de cette lumière de Dieu qui est venue les rejoindre dans leur vie précisément. C'est donc pour montrer qu'aujourd'hui, encore en 2026, Dieu vient rejoindre ces lieux-là. Dieu aime son peuple et vient apporter son salut. Voilà, ça nous le constatons. Nous le savons déjà, il nous l'avait dit, ça fait 2000 ans, c'est pas nouveau. Et parfois on peut le perdre un peu de vue, la flûte catéchumène peut nous le rappeler de manière un peu forte. Mais nous, comment est-ce que nous les regardons? Est-ce que nous les accueillons avec joie? Est-ce que nous nous réjouissons profondément de ce salut que Dieu opère juste à côté de chez nous? Ou parfois, il va y avoir un certain nombre de réactions diverses. Je vous raconte un tout petit témoignage à propos de mon papa, que j'aime beaucoup. Mon papa a épousé quelqu'un qui n'était pas... ma mère n'était pas chrétienne, n'était pas baptisée quand il l'a épousée. Il a eu la foi après, du moins, en cours. Elle s'est faite baptiser après son mariage. Et elle a fait une expérience très belle et très forte de Dieu en venant d'un milieu complètement athée. Dans mes frères et sœurs, et moi le premier, j'ai passé un passage loin de la foi. Et donc j'ai eu une expérience très forte où Dieu est venu me rechercher, pas dans les pires lieux du monde, mais quand même loin de lui, loin de lui. Et je me rappelle... Le jour où j'entrais au séminaire et où mes parents m'avaient demandé de raconter un petit peu mon histoire, de voir comment est-ce que j'en étais arrivé là, et que je disais comment Dieu était venu me rechercher, s'était manifesté à moi. Bon, il y avait une grande joie dans la famille, globalement, famille qui est croyante maintenant, mes frères et sœurs. Et j'ai vu mon père qui avait un regard un peu sérieux, un peu sombre. Et il a fini par dire, mais si je comprends bien, dans cette famille, je suis le seul auquel le bon Dieu n'a jamais parlé. Parce que lui, il est catholique depuis sa naissance. Il est chrétien, il a toujours été à la messe, toujours été fidèle. Il a toujours prié. Et il avait l'impression que Dieu n'avait jamais fait ce signe-là pour lui. Et c'est vrai que ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça, j'ai un peu de compassion pour lui. Je dis, ouf, mince. En fait, j'ai eu de la chance que Dieu se manifeste à moi, comme cela. Et en même temps, un peu de temps après, j'ai rediscuté avec lui, je fais, mais tu sais, papa, en fait, Dieu, il a passé son temps à te parler. Regarde, il a converti ta femme. Il a converti ton fils, toutes les personnes autour de toi. Tous ceux qui t'entourent ont pu trouver le chemin de Dieu et tu n'y es pas étranger. Donc finalement, la fidélité de cet homme qui effectivement n'a pas eu de retournement pour lui, il n'y a pas eu cette forme d'illumination pour une raison simple, il n'a jamais été dans les ténèbres. Mais tant mieux, réjouissons-nous, parce que pour ceux qui étaient dans les ténèbres et qui ont vu cette lumière, ils ont pu trouver, pour moi, cet homme qui a quand même toujours été un repère, mon père, et pour les catéchumènes, ils trouvent une église prête à les accueillir. Donc voilà, frères et sœurs, pour nous, comment est-ce que nous regardons ce monde ? Est-ce que nous le méprisons ? Est-ce que nous passons simplement notre temps à le juger ? Ou est-ce que réellement, comme Dieu, nous l'aimons et nous croyons que Dieu peut manifester sa puissance de salut au milieu de ce monde, sans naïveté, sans compromis ? Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir lorsqu'il fait un pas vers nous ? Est-ce que nous lui ouvrons des portes pour que le salut de Dieu, portant ses fruits, les attire jusque dans son Église ? Et il y a un deuxième petit point peut-être que l'on peut comprendre pour nous aujourd'hui, c'est que bien sûr, et je l'espère peut-être pour la plupart d'entre nous, nous avons depuis longtemps connu la foi, on a peut-être eu la chance de le recevoir dans nos familles, par nos parents, on pratiquait parfois depuis de longues années de fidélité. On dit, ben effectivement, donc cette prophétie ne concerne d'abord que ceux qui sont dehors. Mais peut-être qu'au-delà de la question de la géographie et des personnes, il y a des zones en nous qui ressemblent un peu à la Galilée. Et des petites parties de notre vie, où globalement, ma vie, ça va, je l'ai mise devant Dieu, mais il y a quand même deux, trois éléments où, avec le temps, parce qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des invasions, des peu importe, comme ça s'est passé en Galilée, des compromis. Et je vois bien que cet aspect-là dans ma vie, j'ai essayé de le convertir, j'ai essayé de le faire bouger, mais depuis 10, 20, 30 ans, ça n'a pas bougé tant que ça. Quelque chose bien au fond de moi que quelque part j'abandonne parce que je me dis, bon, de toute façon, c'est là. Et ça ne concerne plus vraiment Dieu, je vais prendre soin du reste, tant pis pour cet aspect-là de ma vie. Mais peut-être, frères et sœurs, que c'est précisément cet endroit que Dieu veut visiter. Ce lieu de combat que l'on porte, chacun d'entre nous, ce lieu que l'on regarde un petit peu avec honte parfois, et on se dit, ça ne bouge pas. Quand Jésus accomplit cette écriture, ça fait 700 ans que la prophétie a été donnée. C'est long, 700 ans. Frères et sœurs, si nous avons encore des zones dans notre vie profondes en nous, qui sont un peu complexes, peut-être que c'est là que Dieu veut nous visiter encore aujourd'hui. Mais est-ce que nous l'attendons à cet endroit-là ? Voilà, frères et sœurs, cette belle parole, nous pouvons la réentendre encore. Dans ce pays de l'ombre, ce pays des ténèbres, la lumière a brillé. Et le Christ vient visiter précisément ces endroits-là avec cette belle proclamation « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche ». Mais quand Jésus reprend ces mots de Jean-Baptiste en disant « Le royaume de Dieu est tout proche », il n'est plus en train de dire « C'est pour bientôt ». Il est en train de le manifester, comme la finale de notre évangile le dit. Il enseignait dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Le royaume de Dieu, le salut, ce n'est pas la vengeance d'un Dieu en colère qui en a par-dessus la tête de son peuple. C'est le salut qui s'opère, la victoire du bien sur le mal et sur le péché. Voilà, signe clair de la présence et de la proximité de ce royaume, ces conversions de cœur, ces guérisons. Voilà, frères et sœurs, notre bonne nouvelle pour aujourd'hui. Notre Dieu se fait proche et peut-être proche des lieux que nous n'aimons pas regarder, nous n'aimons pas visiter. Alors humblement et dans la joie, avec la simplicité du cœur d'un enfant, accueillons-le. Accueillons notre Sauveur aujourd'hui encore. Amen.